Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Francis avec moi, l'émission s'appelle Regarde d'ailleurs. Regarde d'ailleurs, c'est cette envie d'élargir sa vision sur le monde à travers des expériences de vie. Toi, tu es là sur un festival qui s'appelle Le Rêve de l'Aborigène, donc un festival qui a été créé en honneur au peuple racine, au peuple premier, à la base aux aborigènes d'Australie. Et sur le festival, différentes conférences. Donc j'ai vu que hier, tu intervenais sur un voyage que tu as fait en Namibie, notamment à Tsumkwe, chez les Bushman, les Khoisan. Donc l'idée, c'est qu'on prenne le temps dans cette émission qui dure à peu près une demi-heure, qu'on prenne le temps de se rencontrer et qu'on sache un petit peu, ben déjà, toi Francis, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au peuple d'ailleurs, aux cultures du monde ?
Salut Alex. Ce qui m'a intéressé chez les peuples, comment ça a commencé tout ça ? En fait, moi je suis pisteur animalier en Dordogne et je dirais que le tout premier truc dont j'ai souvenir, c'est mon grand-père. Vraiment, c'est à lui que j'ai envie de rendre hommage sur cette passion d'une vie. Et c'était avant d'être sur les peuples. Lui, il ne connaissait pas forcément les peuples premiers, c'était un Provençal. Mais il m'a transmis l'amour de la nature, de façon générale. Et il m'a aussi transmis, disons, la magie du pistage. Il me disait ses pistes, il me disait ses histoires secrètes des animaux à travers leurs traces. Et voilà, je trouvais ça vraiment magique. Il adorait faire des tours de magie, des jeux, tout ça. Donc je me régalais avec mon papy. Je suis de double nationalité. En fait, je suis britannique. Mon père est britannique, d'origine écossaise et d'une mère française. Donc là, c'était mon grand-père français. Quand j'ai eu 15 ans, mon père m'a dit « Va voir ton oncle en Australie, à Perth, donc côte ouest. » Donc j'ai eu cette chance d'aller en Australie, c'était en 92. Et de découvrir ce pays incroyable et de découvrir la culture des aborigènes d'Australie. Et voilà, là ça va répondre à ta question. C'est là où j'ai réalisé qu'en fait ces peuples sont complètement des pisteurs. Tout leur art, tout leur chant, leur danse, leur musique, leur peinture, leur façon de vivre, c'est basé sur le pistage. C'est exactement ces histoires que me racontait mon papy avec les animaux locaux. C'était les mêmes choses. Donc par exemple leur peinture en petits points, on croit que c'est abstrait, en fait c'est hyper concret, c'est des vues du ciel envoyées par leurs ancêtres à ceux qui sont vivants via le temps du rêve, et on voit les traces des animaux et leurs pistes et ça raconte des histoires.
Alors c'est marrant parce que tu dis le mot pisteur, on parle là vraiment de pister les animaux hein, dans la forêt, dans le bush, dans différents biotopes et écosystèmes. Nous aussi hein, en France, quand on va regarder un petit peu la rupestre, hein, qu'on va voir les grottes de Lascaux, les grottes de Chauvet, on va voir quoi ? Des scènes de chasse, des empreintes d'animaux. Donc en fait on parle d'une époque où l'homme était chasseur-cueilleur, nomade ou semi-nomade. C'est vrai qu'aujourd'hui on s'est complètement déconnecté, hein, on vit dans des mondes hors sol où on n'a plus ni la connaissance ni la compréhension du monde vivant qui nous entoure, et pourtant le vivant est toujours là. Et c'est vrai que dans ces peuples, tu parles des aborigènes d'Australie, on va parler des Khoisan un peu plus tard dans cette émission, ben, y a encore ce savoir, cette connaissance qui permet aux hommes de vivre ou de survivre, alors que tout homme blanc aujourd'hui, si on le projetait ou si on le mettait quelque part dans une forêt, je ne suis pas sûr qu'on puisse réellement pouvoir trouver comment faire pour s'alimenter et survivre.
Oui, exactement. Et survivre et en fait vivre en connexion, c'est... Pour eux, c'est leur vie de tous les jours, en fait. C'est même pas de la survie comme dans le sens où on l'utilise aujourd'hui, où il faut forcément un couteau et être en... La nature est une ennemie. Eux, voilà, ils vivent en harmonie avec elle. C'est pas forcément toujours tout rose, hein. Il y a des moments difficiles. Mais voilà, c'est leur vie, leur place. Ils se positionnent pas en tant que propriétaires, comme nous, on peut se positionner, propriétaires terriens. Ils sont gardiens. Ils sont gardiens, ils ont leur rôle d'être humain, d'animal, être humain pour eux. C'est ancré qu'ils sont toujours des animaux. Pour nous, c'est ancré pour beaucoup, mais il y a toujours cette dichotomie entre l'homme et l'animal, quoi.
Oui, la séparation entre les deux, alors que c'est peut-être juste la conscience qui va différencier l'homme et de l'animal, et en même temps, on ne sait pas trop. En tout cas, on fait partie de l'espèce animale complètement, qu'on est un mammifère, hein, qu'on partage la même planète avec l'ensemble des mammifères et du vivant. Tu parles, avant d'aller chez les Bushman, hein, tu parles, ou les Khoisan, parce que le mot Bushman, c'est le mot qui était donné par les Anglais en arrivant là-bas. Les Anglais, je suis pas sûr, les Hollandais peut-être. Et Khoisan, c'est le mot que eux-mêmes se donnent. Tu parles aussi des aborigènes d'Australie. Alors, l'Australie est quelque chose d'assez intéressant dans le sens où finalement, James Cook, qui est arrivé là-bas, est arrivé relativement tard dans l'histoire de l'humanité. Et en arrivant, il a découvert ce peuple et le concept de terra nullis, hein, complètement annulé les droits de propriété. Donc voilà, vous n'avez aucun papier qui nous prouve que vous êtes chez vous. Donc ce pays appartient à la couronne d'Angleterre. Et c'est comme ça qu'on a encore une fois fait une sorte d'ethnocide ou de génocide culturel, hein, donc un ethnocide par rapport au peuple aborigène.
Et sûrement un des pires, parce qu'ils n'étaient même pas considérés comme des humains, alors que les natifs, les Amérindiens, il y a eu des traités qui n'ont jamais été respectés par les colons, mais ils étaient quand même traités comme des humains inférieurs. Les aborigènes étaient considérés comme des animaux, avec toujours cette dichotomie. Et donc il y a des histoires horribles là-bas en Australie. James Cook, en réalité, il n'a rien découvert du tout. En fait, les Hollandais faisaient déjà du commerce avec les aborigènes du nord de l'Australie. Les peuples du Timor faisaient aussi du commerce depuis bien plus longtemps. Donc, c'était pas des Occidentaux, mais quand même. Et puis, au bout du compte, quand même, les aborigènes étaient là, sont des humains. Donc, c'est eux qui ont découvert le territoire avant tout le monde.
C'est incroyable de se dire que quand on arrive comme ça sur une île et qu'on découvre une nouvelle population, plutôt que se dire « Waouh, c'est extraordinaire, vous avez évolué à votre manière pendant plusieurs milliers d'années, soyons complémentaires », non, on a tendance à imposer au nom d'un dogme d'une religion souvent nos croyances et notre mode de pensée.
Ben exactement, d'un dogme d'une religion. Après, il faut remettre les choses dans le contexte historique. C'était une époque où l'Europe était surchargée de monde. Ils n'arrivaient plus à gérer dans les villes... Et ce qu'ils ont fait pour l'Australie, c'est qu'ils y ont vu une opportunité de se débarrasser de tous leurs prisonniers. Donc les POMS, les Prisoners of Her Majesty, His Majesty à l'époque. Voilà, c'est les premiers Anglais sont appelés les POMS par cet acronyme. C'était des détenus en fait, c'était des durs à cuire et ils avaient carte blanche pour faire ce qu'ils voulaient. Donc c'est parti vite en sucette là-bas.
C'est très particulier, pourtant c'est un pays absolument magnifique. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux me donner un mot sur ce qui reste de la culture aborigène? Donc toi tu étais en 92, c'était avant qu'on reconnaisse leurs droits. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce sujet? Tu te sens à l'aise pour parler des aborigènes?
Oui, bien sûr, volontiers. Donc déjà, premier truc, l'Australie c'est grand comme l'Europe, grosso modo. Quand on dit les aborigènes, c'est pour simplifier. C'est comme si on dit les Européens. Il y aura autant de différences entre des Portugais et des Norvégiens qu'il peut y avoir entre différentes tribus là-bas. La plupart des tribus, et notamment sur les côtes, ont été cassées culturellement. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails sordides, mais grosso modo, les Blancs se sont rendus compte que les Métis, avec des aborigènes, tendaient vers le blanc, plus qu'avec des Métis africains. Et donc, ils ont décidé de blanchir la race, c'est le terme. Et du coup, aujourd'hui, sur les côtes, les aborigènes sont souvent métis, ils sont issus de tout ça. Ils commencent à peine à retrouver la fierté de leur origine, parce que c'est un pays extrêmement raciste, avec une sorte de racisme ordinaire, où même des gens qui sont cultivés, qui sont bien... ils ont ce racisme-là, quoi. C'est ancré contre les aborigènes. Donc on a toutes ces populations métisses qui commencent à recoller les morceaux, et on a quand même des populations qui sont encore relativement intouchées. Alors elles ont quand même, elles ne peuvent plus être nomades par exemple, leurs droits sont réduits, ils en ont regagné, mais donc il y a des populations généralement dans les endroits les plus hostiles, dans le désert central ou au nord du pays, dans la terre d'Arnhem par exemple, infestée de crocodiles et d'énormes moustiques. C'est là où les Blancs sont allés en dernier. Terre d'Arnhem, les Blancs sont arrivés, ils ont mis les pieds pendant la Deuxième Guerre mondiale pour y poser une base militaire pour se défendre des Japonais par exemple. Donc c'est relativement récent et on trouve là-bas toujours des tribus qui connaissent quand même les Blancs, qui connaissent leur culture, qui sont même... L'État leur donne de l'argent pour les mettre dans des cases. Ils appellent ça le sit-down money. Ils ont de l'argent, donc il faut qu'ils ferment leur bouche. En même temps, ils sont plus nomades, ils ne peuvent plus faire comme avant. Donc c'est très délicat la situation, mais, Voilà, leur culture survit en tout cas. Leur culture survit.
Et ils essayent aussi de continuer à la faire perdurer. Je pense au Garma Festival, hein, qui est quand même un lieu où annuellement tous les aborigènes de ce coin-là se retrouvent pour essayer de transmettre leurs traditions. Mais comme tu dis, ils ont une sorte de chômage qui tombe tous les mois et c'est tellement plus facile d'aller chercher dans la supérette d'à côté un pot de riz ou de je ne sais quoi plutôt que d'aller chasser un animal dans le bush, hein, et épister les animaux.
Tout à fait. Et en fait, voilà, ils sont des humains, on est des humains, au bout du compte, malgré tout ce qui a pu être dit il y a quelques centaines d'années. On est des animaux tous. Et le confort, je trouve, le confort est dangereux en fait. Nous, on vit tous confortablement quand on va voir comment ces peuples premiers vivent. Mais voilà, tout un chacun, eux aussi, dès qu'on goûte au confort, c'est difficile d'y revenir, dès qu'on goûte à l'électricité, dès qu'on goûte à la carabine pour chasser, dès qu'on goûte à la voiture pour se déplacer. Mais tout ça, ça vient avec une dépendance via l'argent.
Alors c'est un peu l'ironie du sort, parce que tu parles de confort, on s'en rend dépendant, alors que le progrès était censé libérer l'homme, alors qu'en fait ça nous a emprisonnés dans une sorte de routine bien confortable qui nous empêche réellement de développer notre potentiel humain.
Tout à fait d'accord, mais on le voit quotidiennement hein, dans nos façons de travailler, on devrait avoir du temps pour rien faire, mais non, on passe toujours autant de temps à travailler au bout du compte ici aussi, pour avoir de l'argent, pour vivre, pour survivre.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Francis, ici sur le festival, je t'ai vu intervenir pour parler de la Namibie. Donc là, on va quitter l'Australie et on va aller s'intéresser à la Namibie. Donc peut-être que le fil conducteur, si j'ai bien compris, c'est le mot pisteur. Hein. Tu t'es fasciné ou passionné en tout cas par les traces des animaux qui sont là autour de nous et une manière d'essayer de les identifier, de les suivre, de connaître aussi leur comportement. C'est peut-être une forme d'éthologie que de s'intéresser à ces signes-là, ces signes de vie. Donc effectivement, dans les peuples racines, les peuples premiers, les peuples aborigènes, il y a différents noms pour les nommer, il y avait cette connaissance de l'environnement, cette connaissance du monde vivant. Et c'est vrai qu'un peuple connu pour ça aussi, ce sont les Khoisan.
Oui, exactement. Donc les Khoisan, ils ont plusieurs appellations. Effectivement, Bushman, donc ça vient Bochiman, c'est un nom allemand, c'est les hommes de la brousse, qui est devenu un peu péjoratif pour deux raisons. D'abord parce que la brousse était devenue péjoratif, tout comme les mots comme sauvage ou quoi. Mais ça, c'est vu de notre prisme à nous. En réalité, eux, ils s'accommodent très bien du mot Bushman. Et après, il y a eu man et woman. Pour dire une Bushman, il faudrait dire en anglais Bushman woman. Donc c'est devenu aussi sexiste ce mot-là aujourd'hui. Mais eux s'accommodent très bien de ce mot. Il y a d'autres dénominations, il y a San. San, qui est plus utilisé du coup en Occident, mais en réalité ce mot vient d'une ethnie voisine, et ça veut dire les mendiants. Donc voilà, c'est les chasseurs-cueilleurs, ils n'accumulent pas ni de nourriture ni d'argent, et du coup quand il y a à manger, ils mangent, et puis quand il n'y a plus à manger, ils mendient.
Je pensais que le mot San, il y avait les Khoi et les San, et qu'on les a regroupés dans le Khoi San, mais je pensais que c'était eux-mêmes qui s'appelaient San ou Khoi.
Alors non, c'est pas eux-mêmes qui s'appellent ni Khoi ni San. Alors Khoi, je suis pas certain, mais en tout cas San, non. Et le Khoisan, en fait, désigne plus le regroupement de langues à clic que des peuples en général. Mais bon, ça va être tous ces peuples qui utilisent des langues à clic, donc les Khoi et les San, effectivement.
Et les Damara aussi.
Et les Damara et les Nama, qui eux sont des mix entre les Bantous et les Bushmen. Et eux, donc ceux que je suis allé voir, se désigne sous l'appellation Jukwansi, ce qui veut dire ceux qui n'ont rien. Eux sont... Les aborigènes d'Australie se considèrent comme la plus ancienne culture encore vivante. Les San, ou les Bushmen, ça a été prouvé génétiquement, c'est le peuple le plus ancien. Voilà, dans leur patrimoine génétique, c'est les Adam de l'humanité. Il y aurait 5 Adam de l'humanité, ou Ève, et eux seraient un des 5, et les 4 autres auraient disparu. Si vous avez lu « Pourquoi j'ai mangé mon père », il y a l'oncle qui veut rester sur place alors que le père veut bouger. Bah, c'est les descendants de l'oncle et nous, on est les descendants du père, quoi, un petit peu, pour faire simple.
C'est peut-être bien de les décrire parce que là, on parle de l'Afrique du Sud notamment. Donc, cette population vit encore dans une partie d'Afrique du Sud, du Botswana et de Namibie. Mais ils n'ont pas la peau noire. Ils sont étonnants hein, physiologiquement quand on les observe, hein, quand on les voit. On va décrire-les.
Oui, ils ne se considèrent pas comme des noirs. Les noirs ne les considèrent pas comme des noirs non plus. Ils disent qu'ils ont la peau d'écorce d'arbre. Donc ils ont la peau, je dirais, cuivrée. Morphologiquement, ils sont pas bien grands. Ils sont tout secs. Et ils arrivent à rester dans... Ils sont adaptés au désert, en fait. Mais même le désert, c'est pas leur endroit de base. Ils y ont été repoussés. Ils ont subi, en fait, deux grandes invasions ou colonisations. D'abord, celle des noirs bantous, qui sont toujours éleveurs, agriculteurs, et puis celle des occidentaux, les Allemands, les Afrikaners, donc les descendants des Hollandais, qui sont également éleveurs agriculteurs. La différence, elle est fondamentale dans comment on va gérer la terre. Un chasseur-cueilleur, il va suivre le gibier qui lui-même suit les saisons des plantes, donc il va forcément être nomade. Un éleveur-agriculteur, il va enfermer son troupeau, il va enfermer ses plantes et il va avoir un rapport de bataille contre la nature, de bataille sans fin contre la nature. Il va passer tout son temps à couper les ronces, à faire joli, à protéger des lions, etc. Donc il va mettre des clôtures. Du moment qu'il y a des clôtures, bah ça coupe le nomadisme et des animaux et des bushmen qui suivent ces animaux. Donc aujourd'hui, les bushmen ne peuvent plus être nomades parce que ils sont une minorité dans ce pays d'éleveurs-agriculteurs.
Oui, ils ont été aussi repoussés vers les terres les plus ingrates.
Oui, c'est ça où je voulais en venir. Donc ils ont été repoussés dans le Kalahari, alors que leurs ancêtres étaient plus largement un peu partout dans le sud de l'Afrique. Et j'ai eu la chance de pouvoir aller dans le Damara Land, donc là où il y a les Damaras et les Namas, et où il y a des peintures d'art pariétal, donc art sur les parois, peintures sur des parois qui n'existent pas, de pierre, qui n'existe pas dans le Kalahari, il n'y a plus de pierre, donc ils ne peignent plus, ils ne gravent plus, simplement parce qu'il n'y a plus de support. Mais avant, ils étaient là-bas.
Oui, et puis en Afrique du Sud, il y a aussi beaucoup de sites dans le Brandberg, enfin on les retrouve dans plein d'endroits, toutes ces peintures rupestres, et donc aujourd'hui, les Khoisan, tu disais qu'ils ont été obligés de se sédentariser, mais c'est aussi le gouvernement qui ne tolère plus forcément, enfin la Namibie, je ne sais pas, mais je sais que le Botswana a cherché à les sédentariser.
Oui, bien sûr. Mais fondamentalement, c'est pour... Non, fondamentalement, c'est qu'ils étaient considérés comme des sous-hommes. Hein. Clairement, à la base, ils étaient... Donc il y a ce même problème de peuple premier. Mais c'est une différence fondamentale entre les éleveurs-agriculteurs, je pense, et les chasseurs-cueilleurs. Il n'y a pas le même fonctionnement, il n'y a pas le même... Du coup, il n'y a pas réellement de communication politique possible entre les deux, quoi.
Bon, et toi alors, Francis, qu'est-ce que tu allais faire chez les San, chez les Khoisan?
Les Bushmen... Je dirais mon premier contact avec eux, c'était à travers ce film mythique « Les dieux sont tombés sur la tête » quand j'étais petit, mais vraiment marqué. Et ensuite, quand je me suis vraiment intéressé au pistage, j'ai énormément lu sur ce peuple. C'est le peuple mythique de tous les pisteurs. C'est eux qui continuent, c'est les grands maîtres du pistage. Et je pensais jamais pouvoir y aller un jour. Et puis un jour, il y a un copain qui m'appelle, qui était venu sur un de mes premiers ateliers pistage, et qui me dit « Tu fais toujours venir des aborigènes ?» Je fais « Bah oui ». Je te mets en relation avec un copain qui, lui, va souvent en Namibie, chez les Bushmen, et il voudrait être connecté avec ses aborigènes. Donc je les mets en relation, et lui me met en relation avec ses copains Bushmen, via WhatsApp, parce qu'ils arrivent aujourd'hui à se débrouiller pour avoir un petit téléphone portable. Donc ils sont hyper polyglottes, ils parlent tellement plein de langues, dont l'anglais. L'afrikaans, c'est plein de langues locales. Et on parle anglais sur WhatsApp, et on discute quotidiennement. Donc j'étais content de discuter avec eux et très rapidement je me suis dit on comprend notre langage mais on met pas la même chose derrière les mots. Donc il va falloir qu'on se voit et puis on est copains, ça se passe bien. Donc c'est l'opportunité incroyable d'aller directement à la source, quoi. Donc j'ai pris mon billet d'avion, je partais 5 mois après. J'ai pu continuer à discuter avec eux, me documenter énormément sur ce peuple que je connaissais qu'à peine. Et je suis allé là-bas pour découvrir leur art du pistage, pour découvrir leur culture, pour découvrir leur pays, leurs animaux, et puis les découvrir eux.
Donc là, tu te retrouves dans un avion direction Windhoek, capitale de la Namibie, pour aller ensuite tout à l'est, à la frontière du Botswana, vers la ville de Tsumkwe, c'est ça ?
Oui, exactement, complètement perdu dans le Kalahari. Et la Namibie, c'est un pays qui est bien fait. Enfin, disons, ils misent pas mal sur le tourisme, plutôt qu'ils sont en train de sortir petit à petit de la recherche minière ou de la recherche de pétrole, même s'ils en font offshore là, récemment. Et ils se rendent compte que le tourisme peut rapporter de l'argent au pays. Donc, ils soignent leurs routes, ils soignent leur faune, leur flore et leur population locale. Donc, le trajet était relativement simple pour y aller, en fait. Une fois qu'on s'habitue à la chaleur. Et puis, l'émerveillement de la découverte du pays, de voir ces animaux incroyables qui traversent la route, de les voir par la fenêtre, et puis après d'arriver là-bas dans le désert, et puis d'être pris par les bras de cette communauté vraiment super gentille, quoi. Ils ont cette gentillesse qui émane de eux, ils sont toujours très doux, très souriants. Et j'ai passé un peu plus de deux semaines là-bas chez eux, accueillis, sur leur camp, comme... Je suis arrivé comme un ami, je suis reparti comme la famille.
Oui, donc là, déjà tu parles de désert, on va peut-être aussi recontextualiser, parce que quand on entend le mot désert, on s'imagine des dunes de sable. Là, on est dans le Kalahari, mais il y a quand même du bush, il y a quand même de la végétation, donc il y a quand même des animaux aussi qui habitent, hein, c'est pas juste entouré de sable. Donc tu te retrouves à Psunkwe, dans cette communauté, donc parle-nous un peu du quotidien. Comment se passe le quotidien des bushman aujourd'hui? Parce que tu parlais du film « Les dieux nous tombaient sur la tête », où là, il y avait encore, on se rend compte que le peuple était coupé du reste du monde, ce qui n'est absolument plus le cas aujourd'hui. Les bushman ont tout à fait connaissance de notre existence, donc peut-être un peu démystifier aussi souvent cette quête d'authenticité qu'on va vouloir retrouver dans le voyage. Donc ils sont accessibles d'une part, et peut-être aussi nous parler un peu de quelle est la vision qu'ils ont aujourd'hui de nous et de ce que tu as fait, de ce que tu as vécu pendant ces deux semaines en immersion dans une communauté de Khoisan.
Oui, donc aujourd'hui ils boivent bien le coca qui leur est tombé sur la tête à l'époque. C'est plus dans les bouteilles en verre, c'est dans les bouteilles en plastique, mais voilà, ça c'est pour la petite blague. Mais Tsumkwe, c'est une petite ville, comme on peut avoir des petits villages comme ça en France, avec sa petite station essence, son petit... Il y a trois petits boutiques, mais deux qui sont toujours vides, une qui est toujours à moitié vide. Et c'est un mix de communautés. Donc il y a des blancs africains qui tiennent le lodge, qui est l'endroit qui va réceptionner généralement les blancs, donc avec tout confort, la piscine, tout ça. Il y a toutes ces communautés d'éleveurs, donc de bantous, de différentes ethnies, des Oshiwambo, des Herero, plein d'ethnies qui sont là, et tout le monde se mélange. Il y a ces points d'eau, il faut aller faire la queue au point d'eau, donc il y a un forage avec un forage qui dessert d'abord le lodge, qui ensuite dessert quelques bâtiments administratifs, parce que c'est l'armée allemande qui a créé ce village. Ce village, il consiste en un carrefour, c'est tout. Et le long de ce carrefour, il y a quelques petites maisons, des taudis, quoi, des tôles. Ce qui est rigolo, c'est des routes sont en fait de la tôle ondulée, recouverte de gravier. Toutes les routes dénommées C, en fait, c'est numéroté par lettres. Et ils récupèrent, enfin j'imagine qu'il y avait des surplus de ces tôles ondulées et qu'ils récupèrent pour se faire leur cabane comme ça. Donc toutes ces ethnies ont leur petite cabane comme ça sur le bord de la route où ils vivent en famille. Et là où j'étais, c'était légèrement plus reculé, et c'était vraiment dans le sable. Donc effectivement, le Kalahari n'est pas un désert, c'est un semi-désert, techniquement. Donc il y a pas mal de broussailles, de plantes qui piquent, qui pour moi étaient toutes les mêmes au début, mais pour eux c'est tout différent. Et voilà, j'habitais dans cette petite communauté familiale, la communauté de Kamaché. Aucune infrastructure, enfin ils avaient leur propre hutte, ils avaient leur propre cabane faite en briques et en broc. Ils avaient des jolies quand même huttes pour faire leur artisanat. Et puis j'ai posé mon 4x4, j'ai posé ma tente, et puis j'ai passé mon temps ici en me débrouillant dans le désert pour faire mes ablutions.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Alors là, on va passer à ce côté pisteur et chasseur-cueilleur. Donc aujourd'hui, on continue. Bon, la chasse est devenue interdite. Hein. Les bushman n'ont plus le droit de chasser sous peine d'amende ou d'emprisonnement. Par contre, il y a encore cette culture d'aller dans le bush ou d'aller dans le Kalahari pour essayer de déterrer des tubercules, pour essayer de trouver des plantes comestibles.
Alors, en fait, pas tout à fait. C'est vrai que la chasse a été... Et de façon générale, tu as raison. La chasse est très régulée. Mais là où j'étais, ils ont retrouvé leur droit de chasse il y a une vingtaine d'années. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment génial. C'est régulé. Ils ont une certaine zone dans le Nyai Nyai Conservancy et ils n'ont le droit d'y chasser qu'avec les techniques traditionnelles bushman. Mais les namas peuvent aussi chasser dans leur propre zone avec leurs propres techniques traditionnelles qui sont mixtes, eux utilisent des chiens par exemple et ils ont droit à la carabine. Les bushmen n'ont pas droit à tout ça, ils ont trois techniques de chasse grosso modo, c'est le piégeage, la chasse de persistance, et celle-là c'est la plus hallucinante en fait, ils attendent la grosse canicule et ils pistent un animal et ils vont courir derrière en joguant. Et nous les humains on transpire, on est des marathoniens, alors que les animaux en fait la plupart ne peuvent pas transpirer, toutes ces antilopes, donc elles détalent vite et puis elles s'arrêtent, elles sont obligées de reprendre leur souffle, et eux ils trottinent derrière. Jusqu'à ce que l'animal soit épuisé complètement, et là il le cueille et il rentre au camp comme ça. Donc ça c'est une chasse vraiment hardcore. Et la chasse intermédiaire, c'est la chasse à l'arc. Ils ont des tout petits arcs d'enfants, on dirait, avec des petites flèches. Par contre, il y a un poison super dangereux au bout. Donc j'ai eu la chance de pouvoir fabriquer mon arc, mes flèches avec eux, et d'aller chercher ce poison qui est une larve de coléoptère qui est sous une plante, sous une broussaille. Donc une particulière, donc on allait chercher ses broussailles, creuser, récupérer ses larves, sortir le jus, enduire les flèches, et ce poison, il est mortel, faut surtout pas se couper avec, parce qu'il n'y a pas d'antidote. Et nous, on est allé pister, voir les traces les plus fraîches, il s'agissait de deux coups doux, et on les a pistés super vite, quoi. Ils ont une capacité incroyable. Mais moi, je m'y connais un petit peu, en plus, il y a des parties de sable, donc on se dit c'est assez facile, parfois ça passe dans la broussaille, ils sont là, et ils ressortent, ils sont sur la piste. Donc j'ai pris une grosse claque là-dessus, c'était vraiment chouette. Et on a réussi à faire l'approche de ces deux coups doux. Et là, il rampe au sol. Et malheureusement, il y a un oiseau qui nous a démasqué. Les coups doux étaient en alerte et puis ils ont réussi à s'enfuir. Donc là, les bushmen étaient vraiment dégoûtés d'avoir raté ça. Moi, j'étais super content d'avoir assisté à tout ça. Mais si jamais ils avaient fléché le coup doux, il faut attendre pile le bon moment ensuite. Ils vont d'abord regarder le sang qui est au sol, savoir quel organe a été touché. Et en fonction de ça, calculer le temps qu'il leur faut attendre. S'ils vont trop vite, l'animal, il n'est pas encore mort. Donc il va s'échapper plus loin, ça va être plus difficile et le poison va aller partout dans son corps. Donc ils attendent, mais il ne faut pas attendre trop longtemps parce qu'après il y a les lionnes et les lions qui arrivent et qu'il va falloir se battre contre eux, quoi. Donc il faut attendre pile poil le bon moment et repistage pour trouver le corps. Voilà, donc nous ce jour-là on était bredouille. Et par contre sur le chemin retour, il y a un 4x4 qui était passé avant nous, on voyait ses traces qui volaient sur les petites bosses là. Donc on rigolait, on se disait ah il va comme un fou celui-là, il est allé comme un fou, on pistait le 4x4 qui était avant nous. Et là on voit un lapin mort fraîchement sur le bord de la route, on le récupère, et puis un deuxième énorme lapin, taille de nos lièvres, en plus gros encore. Donc on a pu manger ça le soir, ils étaient super contents.
Et les koudous vous sont passés sous le nez. Je crois que c'est une des viandes préférées des bushman, le koudou, non? Ou le iland?
C'est le iland, ouais, le iland. Je le fais pas bien, attends. Voilà.
Qu'est-ce que tu racontes encore comme anecdote dans tes conférences, Francis, quand tu parles de cette expérience de vie dans cette communauté de Khoisan, de bushman?
Oh, j'ai plein d'anecdotes. En fait, je montre un petit film de voyage que j'ai fait. À partir de mes propres vidéos et photos, donc je ne suis pas réalisateur, c'est un petit film qui fait avec le cœur et avec sort de la musique d'amis du rêve de l'aborigène, des super joueurs de didgeridoo, Adèle Blanchin et Gauthier Aubé, et du coup ça pulse bien les images et le son, et ce film est chapitré en les animaux, le pistage, la communauté. On a fait une interview avec eux où en fait toute ma communauté de pisteurs locale du Périgord, je leur ai dit à chacun, posez des questions que je leur poserai. Donc on a pu faire une interview comme ça avec eux. Il y a eu plein de questions, plein de réponses super intéressantes sur leur avenir, sur leur passé, sur leur quotidien, etc. Et voilà, des anecdotes qui sont pas dans le film. Je dirais, moi, les deux qui m'ont le plus marqué, les trois vite fait. J'ai failli être piétiné par des éléphants dans ma tente la nuit et en pistant. Donc c'était vraiment, je pouvais rien faire en fait. Il fallait juste attendre. Et en pistant le lendemain matin, je me suis rendu compte que c'était une maman. Enfin, pas le lendemain matin, la nuit quand ils sont partis, c'était une maman et son enfant. C'est la pire configuration. Parmi les questions qu'on leur posait, c'est quels sont les animaux les plus dangereux. Et c'était trop l'éléphant, clairement. Donc là, j'ai eu chaud. C'était flippant. C'était aussi quelque part ça que je recherchais. Le fait, ici en France, on se balade dans la forêt, on est les rois du monde, on s'en fiche. Là-bas, on est petits, quoi. Et je trouvais que c'était intéressant.
Mais c'est bien de rappeler de cette humilité, parce que c'est vrai qu'ici on a des super prédateurs, mais dans le bush, on est juste un vivant parmi le vivant, et c'est vrai que le danger est autour de nous. Tu parlais des lions, tu parlais des éléphants, les hippopotames aussi, qui sont responsables de la mort de pas mal d'humains, donc c'est bien aussi de travailler son humilité, de se rendre compte que dans le sauvage, on fait partie de tout ça, on appartient finalement au sauvage, et on n'a pas du tout la prétention de réussir à le comprendre et à le dominer.
Ouais, tout à fait. Donc les hippopotames, ils en ont pas trop dans le semi-désert, mais les lions, ouais, j'étais pris dans une meute de lions la nuit. On faisait une pause avec le 4x4 et j'avais amené plein de bushman dans mon 4x4, il y en avait même sur le toit. Et on faisait la pause et puis il nous montre, il fait regarde tous les yeux verts là, et puis il se rapprochait, il nous entourait, c'était de la meute de lions. Et puis là j'étais en confiance, ils n'étaient pas armés rien, mais bon ils savent quand il faut partir. On est resté un moment entouré de lions, ça c'était assez fou. Ouais. Et puis j'ai pisté aussi en solo un léopard avec une trace super fraîche. Mais là, je me suis dit, bon, je suis tout seul, je suis pas fou, je vais le contre-pister, j'ai suivi sa piste à l'envers, quoi. C'était stop, ça.
Mais il y a peu d'accidents, finalement, entre les bushmen et les animaux sauvages.
Oh non, ils connaissent leur truc. Mais les éléphants, c'est possible, quand c'est vraiment sécheresse, qu'ils fassent des raids dans les camps et qu'ils peuvent être dangereux. Ils sont réputés pour être dangereux et il y a des histoires de morts. Pas forcément pour les bushmen eux-mêmes, mais pour les locaux, en tout cas, oui. Donc oui, peut-être les cordes, c'était une découverte assez exceptionnelle chez eux.
Francis, merci.
Merci Alex.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre.
Sentir.
Toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.